tirer.
Bien, ce sera le mot de la fin, Laure Fourtage. Il me reste à vous remercier.
Merci beaucoup.
Au revoir. Vous écoutez France Inter, il est minuit. Les infos, Luc Chemla.
Une opération terrestre à Rafah serait une tragédie sans nom. Voilà le message passé à Israël il y a quelques minutes par le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Une déclaration en réponse à celle du Premier ministre israélien ce mardi. Accord de trêve ou non, son armée entrera dans cette localité du sud de la bande de Gaza. L'idée que nous allons arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est hors de question, prévient Benjamin Netanyahou. Une proposition de trêve à laquelle n'a d'ailleurs pas encore répondu le Hamas. En attendant, le secrétaire d'État américain met la pression et demande de l'accepter sans plus tarder. Plus de retard, plus d'excuses, c'est maintenant qu'il faut agir, estime Anthony Blinken. La proposition prévoit 40 jours de cessez-le-feu associés à une libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Aux États-Unis, d'ailleurs, les rassemblements d'étudiants et de militants pro-palestiniens s'enchaînent depuis deux semaines, et notamment à l'université de Columbia à New York, où un bâtiment a même été occupé la nuit dernière. De quoi susciter la colère de la direction qui menace de renvoyer les étudiants concernés, et de quoi susciter les critiques de la Maison-Blanche. C'est une mauvaise approche et pas un exemple de manifestation pacifique, estime un de ses porte-parole. Un mouvement de protestation qui prend de l'ampleur dans le pays et s'étend désormais à de nombreux campus. Sébastien Paour.
De la Californie à la Floride, de l'Oregon à la Pennsylvanie, les occupations de campus se multiplient. Drapeaux palestiniens, keffiyehs sur les visages, tentes sur les pelouses, partout le même slogan, libérer la Palestine. Et parfois l'intervention de la police, comme ces dernières heures à Humboldt, à l'Université Polytechnique de Californie. Les manifestants s'étaient barricadés dans un bâtiment depuis plus d'une semaine. À Portland, c'est une bibliothèque de l'Université d'État qui est occupée. Des campements de tentes encore à l'Université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans, à celle d'État de San Francisco, à Brown, à l'Université de Pennsylvanie, l'Université Rice, Virginia Tech et Emerson College. Campement dispersé par les forces de l'ordre à Chapel Hill, en Caroline du Nord. 30 étudiants interpellés. Une centaine d'arrestations à Austin, au Texas. Le gouverneur républicain assure qu'il ne tolérera aucune occupation. À Yale, les étudiants menacés de suspension par la direction ont tous choisi de quitter les lieux.
Dans une moindre mesure, en France aussi, des rassemblements étudiants de soutien à la Palestine s'organise depuis quelques jours. Après ceux de Sciences Po Paris, de la Sorbonne, il y en a eu ce mardi devant le site de Tolbiac de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi à Dijon, Rennes, Reims, Grenoble, Saint-Étienne ou encore Lyon. Et cette guerre au Proche-Orient pourrait s'inviter ce mercredi dans certains cortèges des traditionnelles manifestations du 1er mai, organisées normalement pour défendre les droits des travailleurs. C'est en tout cas une hypothèse émise par les renseignements territoriaux. Des rassemblements sont prévus par les syndicats un peu partout en France et d'après le ministère de l'Intérieur, entre 120 000 et 150 000 personnes sont attendues dans les rues. Le gouvernement fait un geste pour compenser la fermeture de l'autoroute A13 dans les deux sens entre Paris et Vaucresson depuis une douzaine de jours. Annonce du ministre des Transports, l'État va prendre en charge 50% du prix du péage de l'autoroute A14 pour les covoitureurs. Cette mesure s'appliquera à partir de deux personnes dans un véhicule et jusqu'à la date de remise en service de l'A13, explique Patrice Vergrit. En attendant, l'A14 fait donc office de trajet alternatif pour certains automobilistes, mais le tarif normal du péage est de 10,60 €. Tout se jouera donc au match retour. Dans une semaine, les footballeurs du Bayern Munich et ceux du Real Madrid ont fait match nul de partout ce mardi soir en Allemagne en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Demain, place à l'autre demi-finale, toujours en Allemagne, le PSG se déplace chez le Borussia Dortmund. Et puis, depuis 10 ans, son logo est sur le maillot des joueuses et joueurs de l'équipe de France de foot. Eh bien, ce n'est pas fini. La marque américaine Nike va rester l'équipementier des Bleus jusqu'en 2034. La Fédération française a validé ce mardi soir le renouvellement du contrat qui courait normalement jusqu'en 2026.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
La météo avec Elodie Calac.
Une journée pluvieuse et orageuse sur la moitié ouest et le sud. Des pluies circulent, parfois marquées vers la Provence, le Massif central, le Centre-Val de Loire et la Normandie. Des orages seront possibles cet après-midi, mais ça s'éclaircira près de l'océan. Sur les Alpes frontalières, il neige beaucoup à haute altitude. C'est plus bas sur les Pyrénées, vers 1000 à 1500 mètres cet après-midi. Sur le nord-est, jusqu'au nord de la Seine, c'est calme avec de belles éclaircies sur la Lorraine et l'Alsace. Cet après-midi, ça va tourner à l'orage sur la Bourgogne-Franche-Comté. Des orages forts avec des pluies soutenues et de la grêle. Ils progresseront vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes ce soir. Les températures baisseront nettement sur l'ouest et le sud cet après-midi, 10 à 18 degrés. Encore 20 à 23 degrés du nord de la Seine au Jura et 24 à 26 sur la Lorraine et l'Alsace.
Merci Elodie Calac de Météo en France. France Inter, il est minuit 5, place à Jusqu'ici, tout va bien avec Marie Misset et Marine Bausson.
Bonjour Marine.
Mais bonjour Marie, bonjour les auditeurs.
Bonsoir les auditrices. En 2013, Arte sortait un documentaire passionnant et fou, Le Sable, enquête sur une disparition, où l'on apprenait notamment que des pays volaient du sable à d'autres pays, que des îles avaient déjà été entièrement englouties et que 75% des plages de la planète étaient déjà grignotées par nos appétits voraces en sable. Et pourquoi faire des bacs à sable? Eh ben non, du béton, pardi. Notre invité ajoute ce soir son énorme grain de sable à cette enquête déjà édifiante avec une autre enquête où l'on apprend que le sable est la deuxième matière la plus exploitée au monde pour, entre autres, donc construire des bâtiments qui ont une espérance de vie ridicule. Une enquête fascinante et dangereuse qu'elle va venir nous raconter.
Ce soir, notre invitée, c'est Alia Benghana pour sa BD Béton, enquête en sable mouvant, publiée aux presses de la Cité, coécrite avec Claude Bechtold et Antoine Maréchal.
Et puis Alia Benghana, elle cherche des alternatives pour remplacer le béton. Elle étudie plein de matériaux. Il y en a un dont elle ne parle pas énormément et qui peut peut-être lui servir. On se permet de lui présenter une femme fan de bambou.
C'est Jeanne Famta Tran qui sera notre invitée passion bambou.
Ta Marine, tant qu'on reste dans le BTP, elle vous demande, à vous qui nous écoutez,
racontez-nous une galère marrante sur votre chantier. Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission, le numéro 01 45 24 7000. 01 45 24 7000.
Puis pour aujourd'hui, tu as testé le muguet de 2050. Qu'est-ce que t'as encore fabriqué?
Tu verras, j'ai compté les brins.
Une émission pour construire autrement ce soir avec une femme qui chante au sable citoyen.
Une autre qui nous fout un coup de bambou.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
France Inter, Marie Misset et Marine Bausson. Jusqu'ici, tout va bien.
Bonjour Alia Benghana.
Bonjour.
Vous êtes architecte, enseignante, vous avez une petite voix aujourd'hui, mais ça va aller.
Ça va aller.
Un peu par hasard, vous vous êtes lancée il y a quelques années, pendant le confinement ou juste avant, dans une enquête sur le béton dont vous étiez alors loin de mesurer les ramifications. De son côté, votre mari, qui est plus journaliste, plus baroudeur qu'architecte, a, lui, enquêté pour ID News, un super média suisse, la piste de l'argent. À qui profite le sable, s'est-il demandé. Il n'a pas été déçu par la réponse. Ça donne Béton, enquête en sable mouvant, une BD passionnante qu'on lit comme un polar et qui donne envie de se fabriquer une maison en bois ou en terre crue, mais en tout cas pas en béton. Alia Benghana, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a déclenché cette enquête que vous avez commencée donc en famille ?
Alors, ce qui a vraiment déclenché l'envie de passer à l'enquête, c'est de découvrir une foreuse à sable juste en dessous de notre maison pendant le confinement en Suisse. On se demandait si elle forait du pétrole, et puis on a découvert qu'elle forait du sable. Et pourquoi du sable ? Pour pouvoir fournir dans 15 ans tous les chantiers de l'arc lémanique. On appelle ça aussi la Riviera vaudoise, près du lac Léman. Et donc, j'avais tellement envie d'écrire depuis longtemps sur ce sujet, et le moment du Covid, ça a été vraiment le moment où tout s'est arrêté, tous mes chantiers sont arrêtés, et où j'ai pu passer à l'écriture et donc à l'enquête.
Il y a un peu de temps pour savoir à qui profite effectivement ce sable. Dans la BD, votre mari n'arrête pas de dire ton béton, et vous vous dites mais arrête, c'est pas mon béton. Vous avez quand même construit pas mal de trucs en béton en tant qu'architecte, comme tout le monde. Les contradictions, c'est la vie, on explore les vôtres, on vous donne des phrases à compléter, mais il y a un mais.
Alia Benghana, vous êtes architecte, Mais
j'adore cuisiner.
Le béton, c'est moderne, mais...
Mais ça dure pas longtemps, et puis il faut l'entretenir beaucoup.
Vous êtes née à Alger, mais...
Mais je suis devenue française à 27 ans.
Votre enquête a commencé pendant le confinement, mais...
Mais j'avais une vue sur une super foreuse à béton. Enfin, à béton, à sable.
À béton, du coup.
Alors, au début, c'était pas gagné avec votre mec, vu qu'il habitait en Suisse, mais...
Mais c'est le Suisse le plus drôle que je connaisse.
Ah. Parce que les autres Suisses, ils sont moins marrants ?
Il n'y a personne qui est aussi drôle que lui.
On embrasse Thomas Wiesel, par exemple.
Vous parlez 5 langues, mais...
Mais j'ai calé sur le chinois quand je suis arrivée en Chine. Et je me souviens juste de comment on dit « je suis architecte et je suis algérienne ».
Et vous pouvez nous le dire ?
Oui. « Wash se gis, wash argilienne ».
C'est impressionnant. Merci. Franchement, ça fait très bien le truc. France Inter conseille des super dessins animés, mais...
Mais ça rend débile les enfants. Ils veulent se jeter contre les murs. Ils pensent qu'ils peuvent voler.
C'était quoi ce dessin animé ?
C'est des pyjamax.
Les pyjamas. Je les connais bien, classique. Moi également. Vous enseignez aussi l'architecture, mais...
Ce qu'il y a de plus dur, c'est le job de maman, surtout de garçon.
Merci Alia Bengana, vous êtes solide sur vos appuis. 80% de ce qui est construit aujourd'hui est en béton. Pourtant, le béton, en plus de vider les plages du monde entier, c'est destructeur pour la planète. Ça produit des émissions faramineuses de CO2, ça génère une production titanesque de déchets. Et au-delà du sable, c'est composé de ciment dont la production au niveau mondial émet 2 fois plus de CO2 que tout le trafic aérien. Et ça, c'est les choses folles qu'on apprend dans votre BD. C'est quelques petites choses que vous avez découvertes pendant votre enquête vous poussent aujourd'hui à vous engager pour une architecture alternative avec des matériaux nouveaux. On va en parler dans quelques minutes. Et puis tant qu'on en est à parler de gros BTP, voilà ce que Marine vous demande à vous qui nous écoutez.
J'allais dire que c'était moi le gros BTP. Racontez-nous une galère.
Je ne serais jamais
permise. Bien sûr que si. Racontez-nous une galère marrante sur votre chantier. Toi par exemple, Marie.
Alors c'est pas du tout sur un chantier. Du coup, c'est juste l'occasion de raconter cette histoire. Je venais d'emménager et les toilettes ont rapidement été bouchées. Mais alors bouchées. Alors on a tout essayé. On a même vidé nous-mêmes. Terrible expérience. On a fini par faire venir un plombier et en fait, nos toilettes, c'était un sanibroyeur. Il suffisait d'appuyer sur un bouton. Voilà, le monsieur a appuyé sur le bouton, ça m'a coûté 80 euros.
Et un petit regard un peu condescendant quand même.
Très condescendant, et... heureusement, c'était pas moi qui étais avec lui. C'était un homme qui l'a très très mal vécu.
Et qu'on embrasse également. Bon, mais vous, racontez-nous une galère marrante sur votre chantier, si vous arrivez à faire aussi bien que Marie, évidemment. Continuez de nous écrire sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ou l'Instagram de l'émission, jusqu'ici tout va bien, _ France Inter.
Et en attendant de vous lire et de comprendre pourquoi la construction d'une maison, c'est une période de tension pour au moins 55% des couples, 12% pensent même carrément à se séparer, on écoute David Walters avec Kissa sur France Inter.
C'est comme un... C'est chez moi. On sait les mots bas. Oui, les tout bas. On plaît les tout bas. C'est plaît les bas. Senti la peau. Moi, c'est les corps. Déjà tout ça. Plaît, moi, c'est plaît.
Sauver le monde.
C'était David Walters avec Kissa sur France Inter. Alia Bengana, votre engagement ce soir, c'est de nous expliquer pourquoi aujourd'hui il faut absolument construire autrement qu'avec du béton. Vous êtes architecte, vous êtes enseignante. Dans votre BD coécrite avec votre mari Claude Bechtold, Béton enquête en sable mouvant, on en apprend des vertes et des pas mûres sur le béton, matériau fétiche de Le Corbusier, au hasard, pour qui le béton c'est la liberté. Le béton c'est 80% de ce qui est construit aujourd'hui. Et puis pour le coup, on peut pas vraiment blâmer la modernité, puisque même les Romains utilisaient du béton. Alors pourquoi il faut arrêter avec le béton, Alia Bengana?
Il faut en tout cas l'utiliser le moins possible. Parce qu'en soi, le béton, il fait des choses incroyables. On l'associe au fer, et puis il fait des ponts, il fait des immeubles qui montent assez haut. Puis aujourd'hui, on doit être compact, dense, etc. Donc en soi, il fait des choses dingues. C'est juste qu'au début du siècle, semblerait-il, on avait commencé à se rendre compte que ça ne durerait pas si longtemps que ça. Et puis surtout, on avait commencé à se rendre compte qu'il allait falloir beaucoup, beaucoup l'entretenir. Et en fait, aujourd'hui, c'est le matériau le moins cher. Un mètre cube de béton, c'est moins cher qu'un mètre cube de bière. C'est imbattable. On trouve partout les matières.
De bière, je vérifie d'avoir bien entendu.
Oui, de bière. Moi, je ne savais pas du tout. C'est un chercheur qui m'a dit ça une fois. J'avais été restée. Et puis, le problème, c'est qu'en fait, ça a fait des choses géniales, mais on n'anticipe jamais, lorsqu'on construit en béton armé, ce qu'il va falloir investir sur le long terme pour l'entretenir lorsque c'est exposé aux intempéries.
Parce qu'en fait, il y a de l'acier à l'intérieur du béton armé qui rouille,
qui gonfle,
voilà, qui rouille, et qui fait des fissures.
C'est ça. Et donc, si vous avez par exemple un bloc de béton qui n'est pas armé, par exemple le Panthéon de Rome, c'est un béton fait avec une formule un peu différente, et puis il n'est pas armé. C'est pour ça qu'il est là 20 siècles plus tard.
Il est encore là, et il ne suffit donc pas de retirer l'acier. Ce serait simple.
En fait, le truc, c'est que ça ne suffit pas de retirer l'acier parce que le ciment qui est le liant des granulats du béton, à la fabrication, émet énormément de CO2. Il y a une espèce d'équation chimique qui émet, ça s'appelle la décarbonatation. Et en fait, c'est vraiment la quadrature du cercle pour les cimentiers, parce que c'est cette réaction-là qu'il est très difficile de contrôler. Quoi.
On l'a dit tout à l'heure, mais c'est plus que le trafic aérien mondial, ouais. ce que ça dégage en CO2 au niveau mondial.
Oui, c'est juste la fabrication du ciment à l'échelle mondiale, c'est on va dire 8%. Et le trafic aérien, ça dépend des études, mais c'est entre 3 et 4%. Donc parfois, on dit même 3 fois plus. Donc c'est énorme. Mais c'est énorme parce que on l'a trop aimé. Quand vous pensez que 80% de ce qui se construit avec le même matériau sur tous les continents. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est surtout la quantité.
Et puis ça garde pas vraiment ni le chaud ni le froid. Au début de la BD, on voit que vous avez des doutes quand même avec le béton, mais ces doutes sont vite effacés par le quotidien, par le fait aussi que personne chez les architectes ne remet en cause ce matériau, en tout cas pas à grande échelle. Marine non plus, jusqu'à aujourd'hui, elle ne remettait pas en cause le béton.
J'ai jamais remis en cause le béton.
Elle était très pro-béton.
Voilà. Non, j'ai été pro-béton.
Pourquoi cette impensée d'après vous?
C'est un impensé parce que c'est une matière assez géniale. Vous extrayez du calcaire et de la terre n'importe où dans le monde, et c'est vraiment deux matières qu'il y a pratiquement partout. Par exemple, un des rares pays qui n'a pas beaucoup de calcaire, par exemple, c'est le Chili. Sinon, du calcaire, il y en a partout. Donc, en fait, vous arrivez à faire une matière avec deux ingrédients qui se trouvent partout. Après, vous la coulez dans un coffrage et vous faites ce que vous voulez avec. Donc, comment vous voulez que ça n'ait pas du succès, une telle matière? Ça a façonné un siècle, en fait. Et ça façonne encore notre monde.
Ce qui est fascinant, c'est qu'au-delà de la fracture, fracture peut-être aussi environnementale très chère du béton, on a découvert avec votre BD, et notamment aussi l'investigation de votre mari sur les circuits financiers et physiques du sable, un système quasi mafieux qui opère en toute impunité, au moins en Suisse et en France. Il y a des voleurs de sable, et quand c'est pas mafieux, c'est en tout cas assez malhonnête. Vous défaites par exemple l'idée d'un béton bio qui concentrerait moins de CO2.
Oui, alors aujourd'hui, il y a un peu une espèce de mirage qui est les ciments, on appelle ça bas carbone, ou les ciments verts. Si vous, je sais pas, vous connectez sur les sites des cimentiers, vous allez voir, en fait, on parle que de ça. L'idée, c'est de faire business as usual, c'est-à-dire c'est de continuer à consommer autant de matière, mais une matière qui serait moins carbonée. Et ça, c'est très compliqué. Par exemple, aujourd'hui, les ciments qui sont en vente, ils sont pas mal des ciments un peu greenwashés, quoi. C'est des formules qui existaient déjà avant, C'est juste qu'un des constituants qu'on remplace pour que ce soit bas carbone, en général, c'est ce qu'on appelle les laitiers de hauts fourneaux, c'est des résidus d'autres industries. Là,
probablement pas du lait. Moi, je me suis dit ça en lisant la BD, je me suis dit que ça ne doit pas avoir de rapport avec le lait.
De la sidérurgie, et ben, ce truc-là, il a un impact carbone qui existe. C'est juste que la communauté européenne a décidé que c'était à zéro parce que ce n'est pas ça qui coûte vraiment de l'argent. Et puis aujourd'hui, c'est un peu ces ciments-là qu'on met en avant. Mais bon, il y a quand même des véritables recherches sérieuses aussi. Par exemple, il y a à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, il y a un laboratoire de recherche qui a mis au point un ciment où il y a des argiles dedans, un certain type d'argile qu'on trouve un peu partout aussi, il s'appelle les kaolinites. Et c'est vrai que ce ciment-là, qui s'appelle le LC3, quand il sera réellement produit, il baissera l'impact de 30-40%. Donc, on arrivera à des choses moins greenwashées, mais pour le moment, c'est beaucoup de greenwashing.
Et du jeu avec les normes européennes.
Ouais. Moi, votre BD, elle m'a beaucoup fait penser à celle d'Inès Léraud, Algue verte, l'histoire interdite. Elle a reçu beaucoup de menaces et d'intimidations pendant son enquête. Vous, ça va, vous risquez rien en sortant cette BD, puisque Marie est un très bon garde du corps, si
ouais,
vous voulez.
C'est ça, les fins de mois.
Alors, on m'a déjà posé cette question. Je suis passée à un podcast qui s'appelle La Fabrique Urbaine, qui est un super podcast. On m'a demandé si j'avais pas peur de finir avec un bloc de béton dans le fond du lac Léman. Et puis j'ai dit que non, parce qu'en fait, les Suisses sont très cordiaux. Et moi, j'ai de bonnes relations avec certaines... par exemple, avec le directeur d'une des plus grosses cimenteries de Suisse, avec qui je lui dis tout le fond de ma pensée.
Et puis donc, et vous faites des tennis ensemble.
Alors, on fait pas des tennis, mais on a pris des bières. Et voilà.
Et vous avez dit, ah, c'est plus cher qu'au mètre cube.
Justement, je lui ai même dit ça. Je lui ai dit, c'est plus cher. Voilà. Et donc, en tout cas, en Suisse, moi, j'ai pas peur. Puis même en France, en fait, j'ai été reçue plusieurs fois par le service d'innovation de Lafarge.
Lafarge que vous citez quand même.
Oui, bien sûr, continuellement. Ouais. Alors, à mon avis, je sais pas s'ils vont me recevoir à nouveau, maintenant qu'en plus, on a fait une BD. Et puis qu'en plus, j'ai toute une partie là où je m'énerve et que je dis que c'est du greenwashing. Mais en tout cas, il y a des échanges vraiment possibles. Alors après, je sais pas si ça va donner des résultats. Mais enfin, bref.
En tout cas, vous ne sentez pas menacée, quoi.
Non.
Alors qu'en Inde, il y a quand même des journalistes qui enquêtent sur le business du sable et
qui sont morts, il y a eu des assassinats, il y a eu des... Même en Algérie, il y a eu des procès, du sable qui est volé la nuit. Non, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui sont menacés partout dans le monde parce qu'ils volent du sable la nuit.
C'est la deuxième matière la plus échangée, c'est ce qu'on disait au...
D'abord, il y a l'eau. Et après l'eau, il y a le sable. Donc, c'est comme dit Pascal Peduzzi, c'est le héros inconnu sur lequel est fondée notre société.
En ce moment, on parle beaucoup de la crise du logement, de la nécessité de fabriquer du neuf. Les entreprises de BTP souffrent à peu près partout, en France en tout cas. On comprend pourquoi c'est un sujet très très sensible. Et même vos enfants, ils font pas super confiance dans les trucs qui sont en bois ou en paille. Les trois petits cochons, ils ont fait beaucoup de mal, non ?
Ouais, moi je déteste les trois petits cochons.
C'est une haine pour les
trois petits cochons. Franchement, je déteste ce conte. Et j'aimerais beaucoup... alors, il y a déjà une version qui a été réécrite, qui est pas mal, mais je rêve de réécrire une autre version qui déconstruise ce conte. Et d'ailleurs, moi, par exemple, à l'époque où j'étais surtout architecte, le nombre de fois où des maîtres d'ouvrage m'ont dit « Vous voulez nous faire les trois petits cochons ?» ça m'est arrivé plein de fois, vraiment.
Ça revient tout le temps.
Oui,
votre enfant qui souffle sur les maisons en paille, il dit ça peut tomber, maman.
Voilà, ça tiendra pas, le bois, c'est pas solide.
Voilà, donc il faut supprimer les trois petits cochons, la cancel culture est en marche. D'ici la fin de l'émission, vous nous raconterez, vous qui êtes professeur en architecture, ce que c'est aujourd'hui la modernité, puisque ça n'est plus le béton. Vous n'êtes pas prêts. D'ici là, on parle chantier, et ça, c'est toujours un plaisir.
Racontez-nous une galère marrante sur votre chantier. C'est dur les chantiers, hein, je le sais, je viens de finir le mien. Mais j'avoue que ça fait des bonnes histoires et on a reçu notamment un vocal de Leïla.
Salut les mamas. Et moi j'en ai eu plein des galères dans mon chantier parce que je rénove une poste, une ancienne poste.
Comme mon frère.
Mais je vais plutôt vous raconter la fois où dans le grenier je suis tombée sur un vieux cahier avec des dessins, érotique, avec une histoire de type érotique, très certainement écrit par un jeune homme il y a des années de ça. C'était très cocasse. J'adore votre émission, je vous embrasse tous.
On vous embrasse très fort.
Ah oui, merci Leïla. Bah, je veux que je demande à mon frère qui fait aussi la poste.
Si tous les postiers de France faisaient des trucs érotiques dans les années 20.
Les anciennes postes peuvent nous raconter. Écrivez-nous 01 45 24 7000. On a un autre message d'Arthur qui dit aujourd'hui en réunion de chantier. C'est aujourd'hui. Je suis tombée devant tout le monde. Voilà, on faisait un tour du chantier. Il y avait une entreprise qui avait mouillé tout le sol. Glissade sur une flaque. Boum. Le cul par terre. C'est assez magnifique, j'aime assez bien. On a Tom qui nous dit un logement acheté sur plan qui n'a jamais vu le jour après des malfaçons et un procès à la société de construction qui a fait faillite. Appelle-t-on ça encore une galère ? Non, là, je pense qu'on n'est plus sur une galère marrante, là, mon petit Tom. Donc, mais on veut savoir pour vous, racontez-nous une galère marrante sur votre chantier. Écrivez-nous, envoyez-nous des messages vocaux sur WhatsApp au 01 45 24 7000 ou l'Instagram de l'émission Jusqu'ici tout va bien _ France Inter.
Et Tom, même les galères pas marrantes, vous pouvez nous les raconter, voilà.
Oui, racontez-nous tout.
Non, dites-nous tout, on est là pour ça. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil dans votre passionnante BD. Vous racontez les alternatives au béton qui valent le coup d'être creusées. La paille, le bois, la terre crue, la terre cuite. La terre cuite, je ne suis pas sûre.
Non,
la terre crue. On a voulu...
La terre cuite de réemploi, qui a déjà été
On a voulu vous présenter quelqu'un qui a un matériau fétiche, le bambou.
Ça sera Passion Bambou sur France Inter avec Jeanne Femme Tran.
Et avant de se lancer dans ce moment spécial panda, on écoute la belle voix de Hills avec Goldie sur France Inter. C'était Hills, dont je conseille très très fort l'autobiographie Tais-toi ou meurs, et la chanson, c'est Goldie.
Jusqu'ici, tout va bien. Marie Misset et Marine Baousson sur France Inter.
Avec l'architecte Alia Bengana qui nous raconte dans la BD Béton enquête en sable mouvant pourquoi le sable disparaît partout, pourquoi le béton c'est mortifère et pourquoi les maisons en paille ne risquent pas d'être soufflées par le grand méchant loup des trois petits cochons qu'elle déteste. On a voulu tirer ce fil des matériaux qui méritent toute notre considération et vous présenter une femme qui aime fort les bambous.
C'est Passion Bambou sur France Inter, introduite aujourd'hui par Gilles Marchal qui chante la simplicité de la vie grâce au bambou.
Pas besoin. besoin de chercher bien loin. Moi, je connais un coin, un petit bout de bambou, un fil et un verre au bout. Si l'on ne prend rien du tout, on dort et puis c'est tout.
Un petit bout de bambou, un fil et un verre au bout. Ça n'y paraît pas beaucoup, mais la vie a du coup.
Très belle ode au bambou. Bonjour jeune femme Tran.
Bonjour.
L'acier vert, c'est le surnom que vous donnez au bambou dans votre livre qui appelle à révolutionner nos manières de construire, nos manières de penser à l'aide de ce matériau naturel incroyablement solide et plein de vertus écologiques et philosophiques. Alors jeune femme Tran, vous habitez depuis 3 ans en Thaïlande. C'est ce qui vous a inspiré votre enquête parce que dites-vous, le bambou est absolument partout autour de vous en Thaïlande. En quoi est-ce que le bambou, c'est une alternative sérieuse à des matériaux de construction comme le béton au hasard? Et par exemple.
Alors le bambou, c'est en effet une alternative très sérieuse, notamment dans les zones tropicales, parce que c'est un matériau low-tech par excellence. Donc low-tech, ça veut dire qu'il est utile. Vous connaissez la capacité de transformation du bambou, que ce soit dans la construction, mais aussi dans des choses beaucoup plus petites, des petits objets qu'on peut tisser, etc. Voilà, de la vannerie, etc. C'est un matériau qui est low-tech parce qu'il est extrêmement accessible, peu coûteux, léger, local dans beaucoup, beaucoup d'endroits du monde et durable, extrêmement écologique. C'est la plante qui pousse le plus vite au monde, qui se renouvelle toute seule. Donc on ne peut pas déforester une forêt de bambou.
Ni un jardin, simplement, j'en ai parlé avec des gens ce week-end précisément.
C'est la plante qui stocke le plus de CO2 au monde et notamment grâce à sa capacité à se substituer à des matériaux très polluants que sont le béton, au hasard, l'acier ou encore le plastique.
Vous, quand vous regardez un bambou, vous pensez à votre famille. Et ça, c'est intéressant.
Oui, je pense à ma famille, c'est vrai, parce que le bambou est une herbe, déjà, rhizomatique. C'est-à-dire qu'elle a cette espèce de racine souterraine qui donne des racines vers le sol, enfin vers le sous-sol, et des tiges vers le ciel. C'est ça qu'on appelle des rhizomes. Les rhizomes du bambou, comme vous le savez peut-être, sont particulièrement actifs. C'est même ce qu'on pourrait appeler le cerveau du bambou, puisqu'il stocke la nourriture, l'eau, etc. Et qu'il a une capacité à se promener, à aller voir toujours ailleurs. Assez exceptionnel.
Alia Bengana, dans votre BD Béton, enquête en sable mouvant, vous étudiez des alternatives au béton que sont la paille, le bois, la terre. Pas de bambou. Vous avez déjà construit des trucs en bambou, vous ? Ou c'est un angle mort, un peu ?
Non, j'ai déjà fait quelque chose en bambou, parce que j'adore ce matériau. Moi, ce que je trouve fou avec le bambou, c'est que vous coupez, ça repousse. Le bois, il faut replanter. Le bambou, ça repousse tout seul. Donc, c'est en soi, ça matériau génial. Et la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu une expérience avec du bambou, c'était en Haïti. Et on avait dessiné une maison, enfin, un prototype pour un resort avec des sacs de terre. Donc, vraiment, des sacs de riz, vous voyez le sac de riz, mais rempli en terre, donc c'est vraiment une technique antisismique, et ensuite une toiture en bambou. Et donc c'est là que j'ai eu des bribes, on va dire,
de ce
que ça pouvait être. Voilà.
En effet, oui, c'est tout à fait vérifié que dans les zones sismiques, ils construisent de plus en plus en bambou, ils reconstruisent de plus en plus en bambou, puisque c'était une plante très utilisée en construction, on s'est remis à utiliser le béton, et puis maintenant on repasse au bambou.
Mais qu'est-ce qu'on peut... Enfin, on peut le faire pousser partout et l'appliquer comme une sorte de recette miracle. Parce que ça fait un peu comme les éoliennes, j'ai l'impression, c'était la folie. On en a foutu partout, puis un peu, on en est un peu revenu parce que ça dépend des conditions météo du pays. Le bambou, en fait, c'est tout terrain, selon vous, Jeanne ?
Oui, alors, en effet, le bambou, déjà, il y a 1600 espèces. Hein, donc, quand on dit le bambou, oui, c'est quand même un
c'est presque
peu,
raciste, finalement. Oui, c'est, voilà. J'ai l'impression, Marine.
J'ai pas osé le dire. Mais les bambous ont une capacité d'adaptation extraordinaire, avec une capacité d'adaptation dans différents sols, différents climats. Les seuls continents où ils ne poussaient pas naturellement, c'était l'Europe et les pôles. Donc sachez que les bambous que nous avons en Europe ne sont là que depuis le 19e siècle.
Donc ils ont été complètement importés. Mais
importés,
ils se sont bien...
grâce notamment à la route de la soie. Ça fait partie des apports de la route de la soie.
Mais alors,
ils
par
se
contre,
sont très très bien adaptés, un peu trop au goût de certains.
En France, on n'a pas le droit de faire construire sa maison en bambou parce que c'est justement une herbe et pas un arbre.
Oui, en termes de normes, C'est un peu compliqué. Bon, il y a un vrai lobby du béton et du bois, hein. Mais il y a aussi des normes qui sont un petit peu compliquées, autant pour des forêts de bambou. Enfin, une forêt de bambou n'est pas une forêt, et une maison en bambou n'est pas une maison en France. En
fait. Donc ça, on peut pas l'assurer.
Voilà.
De manière générale, on peut pas avoir des maisons en herbe.
Voilà.
Merci pour la précision. J'avais un petit projet ciboulette, là, mais tant pis, on va pas grandir.
C'est quelque chose qu'on observe beaucoup, ce retard peut-être de la législation et des normes sur les nouvelles façons de construire, Alia Bengana.
Oui, par exemple, en France, on n'a pas de normes pour construire en terre crue, alors qu'on a encore un tiers de l'humanité, voire la moitié, qui vivent dans des habitats en terre crue. Le seul pays qui a des normes pour construire en terre crue aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et puis, il y a d'autres pays qui sont en train de regarder l'Allemagne pour copier un peu les normes, comme par exemple l'Autriche, la Belgique. Et en France, il y a un projet qui s'appelle le PNTER, qui est en train d'explorer, on espère, l'arrivée de normes de construction pour la terre crue.
Donc, ni bambou, ni terre crue pour l'instant. Jeanne Fentren, vous parlez aussi de la place du bambou sur le terrain plus philosophique, plus spirituel en Asie. C'est bien sûr, c'est bien simple, vous dites qu'il est partout. Comment ça se manifeste, par exemple, dans des mythes fondateurs de la...
Oui, alors le bambou est vraiment à l'origine de nombreuses spiritualités, que ce soit l'animisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. C'est assez impressionnant. Il y a de nombreux mythes des origines aux Philippines, à Taïwan, en Malaisie, qui racontent que l'homme et la femme sont nés d'une pousse de bambou.
Ah oui.
Et puis il y a aussi au Vietnam une très très jolie légende qui raconte aussi, enfin qui nous fait prendre conscience plutôt de la similitude entre nos articulations en tant qu'être humain et ceux du bambou, parce que quand vous coupez un bambou, il y a des nœuds et ça ressemble vraiment à un tibia. Moi ça m'a beaucoup troublée quand je l'ai fait, tant par le velouté de la peau du bambou qui ressemble à notre peau que par ces sortes d'articulations qui ressemblent aux nôtres, sans parler de sa verticalité et sa souplesse, qui sont quand même très très différentes de celles d'un arbre.
Et justement, ça nous vient même en aide au combat, comme au Vietnam où on parle de diplomatie du bambou. C'est quoi la diplomatie du bambou ?
Alors, la diplomatie du bambou, c'est très intéressant. C'est une expression qui vient pas de moi, qui vient d'un secrétaire général du Parti communiste vietnamien et qui en dit long un petit peu sur ce qu'on pourrait appeler la souplesse ou la versatilité ou le suivisme de certains pays que sont le Vietnam ou la Thaïlande, qui sont obligés de naviguer. C'est des petits pays, hein, entre la Chine et les États-Unis notamment, et qui sont obligés d'avoir, comme dit certaines personnes politiques dans ces pays-là, un socle. Donc le rhizome solide et le sommet souple.
Bon, Jeanne Fentren, moi j'ai une vraie question. J'ai des immenses bambous qui poussent chez moi. Je sais jamais quoi en faire une fois que je les ai coupés pour voir à nouveau le jour, parce que c'est le problème quand même. C'est qu'à un moment, ils dépassent ma fenêtre du dessus. Vous avez un plan pour moi ? Qu'est-ce que je fais ?
C'est une excellente nouvelle. C'est magnifique. Enfin, il faut les observer. Il faut les regarder. Il faut les écouter.
Donc je commence par ça, les observer, les regarder,
et on les coupe pas.
Et au bout d'un moment, vous allez atteindre le nirvana.
Je suis prête. Comment il s'appelle le vôtre, celui qui est dans votre jardin, qu'on salue bien bas ?
Sudongpo, qui est le nom en fait d'un grand lettré chinois que j'admire énormément, qui est poète, qui est peintre, calligraphe, qui a passé sa vie à peindre et écrire des poèmes sur les bambous.
Et justement, Michel Serres dit que tout écrit dans la vie, ça on peut le lire aussi dans votre livre, Les océans écrivent.
Exactement.
Et les bambous écrivent et laissent des traces.
Tout à fait.
Merci, Jeanne Fentren, de nous avoir permis d'imaginer ensemble les contours d'une révolution bambou. C'est le nom de votre livre qui vient de paraître aux éditions des Équateurs.
Merci.
Alia Bengana, on parle aussi de votre BD Béton, enquête en sable mouvant, publié aux presses de la Cité, que vous avez écrit avec Claude Bechtold et Antoine Maréchal, n'hésitez pas à me corriger si je prononce mal les noms, et qui ne donne plus du tout envie de couler des dalles de béton. Alors, on a longtemps enseigné aux étudiants en architecture que le béton, c'était la modernité. Vous qui en êtes revenu et qui enseignez l'architecture, je veux savoir, c'est quoi la modernité ? Ce sera mon obsession.
Quant à moi, à 17h53, je ne vous parlerai pas d'Arnaud Lagardère, mais bien d'un sujet un brin plus d'actualité.
Et d'ici là, on est très très fiers du jeu de mots qui suit, qui nous donne vraiment beaucoup de joie. On écoute Renaud avec Laisse Béton.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper. Le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre. Puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Paris, que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle, d'un blouson mecton, les pas bidons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te chouraverai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être un gay en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
C'était Renaud avec Laisse béton, parce que Alia Bengana, vous voudriez qu'on laisse un peu béton, le béton. Et vous argumentez parfaitement le propos conjointement avec Claude Bechtold et Antoine Maréchal dans une double enquête édifiante qu'on retrouve en BD, Béton, enquête en sable mouvant. Je dis double parce que vous avez la vôtre et il y a celle de votre mari, et puis ça finit par se rejoindre. Vous, vous êtes archi, vous vous baladez sur des chantiers. Les chantiers, ça peut être le béton du couple, un truc qui risque de s'écrouler à tout moment si on ne fait pas attention. D'où cette question qu'on vous pose à vous qui nous écoutez.
Racontez-nous une galère marrante sur votre chantier. Alors vraiment, tous les messages ressemblent au sketch de la réunion de chantier de Muriel Robin, c'est extraordinaire. On a reçu juste un petit vocal de Lisa, je vais vous le lire parce qu'on n'a pas eu le temps de l'envoyer, bref, à la machine, mais je vous le lis, ça dit...
À la machine.
Ah oui, bah, je suis très un peu sur les techniques de montage d'émission, qui dit, moi la grosse louche du chantier, c'était un appart acheté avec mon ex, on s'est séparés en plein chantier, je me suis retrouvée avec le chantier à faire toute seule, génial, mais grosse surprise, j'ai fait le gros fantasme de me taper l'électricien qui est aujourd'hui le père de ma fille et que j'avais perdu. Voilà, c'est assez mignon. Et puis on a reçu un vocal que là pour le coup j'ai envoyé à la machine.
Salut les mamas. Alors un petit message qui n'est pas une catastrophe mais qui est un message rigolo sur un chantier. On est en train de retaper une vieille maison de campagne et on fait tous les murs en chaux. Pour la chaux il faut du sable, c'est QFD sur le sujet du jour. Et un jour un pote nous a dit, ah j'ai un peu de sable à vous amener, je vous le mets dans le jardin. Et en fait il nous a déversé trois tonnes de sable dans le jardin. Et depuis, les enfants ont pas un bac à sable, ils ont une montagne de sable dans lequel ils s'amusent comme des petits foufous.
Mais donc vous en êtes pas servi de ce sable. Bon, on n'aura jamais la réponse, c'est un vocal.
Mais alors, on n'a pas eu le temps de tout diffuser, mais en plus c'est un sable qui est hyper rare, donc ils jouent sur des millions d'euros en fait, les enfants. c'est assez rigolo. On a plein de messages vraiment. On a Nat qui nous dit, lorsque les ouvriers ont terminé de poser les tuyaux de gaz à la maison, on ne pouvait plus ouvrir les fenêtres, les tuyaux passent devant. Bah, c'est magnifique. Voilà, un autre genre, on a Anaïs qui nous dit, moi j'ai voulu purifier le chantier des ondes négatives avec de la sauge. Une heure après, le toit s'est effondré. Belle purification. Voilà. Vraiment, c'est super. Et je termine juste avec un dernier truc. C'est Arnaud qui nous dit, salut les mamas. Hier, pour ma part, en allant inspecter un comble dans Marseille, je me suis fait recouvrir de fientes de pigeons devant le client en ouvrant la trappe. Le comble était rempli de cadavres d'animaux en tout genre, un différent stade de décomposition. Du bonheur. C'est très différent de quelqu'un là qui nous a écrit pour nous dire qu'elle avait dû stopper son chantier à cause de nids de moineaux.
Bon,
merci pour tous vos messages.
C'est toujours mieux que la personne qui a trouvé un cadavre pendant son chantier, qui était emmuré, c'était en banlieue parisienne il y a quelques années.
Voilà. Là, écrivez-nous si c'est le cas, on veut tout savoir.
S'il vous plaît, que cette personne nous écrive. Ça me fait penser à l'histoire du monsieur qui a livré son sable, qu'on ne peut pas faire du béton avec n'importe quel sable, ni de la chaux. On l'apprend dans votre BD, Alia Bengana. On ne peut pas faire du béton avec du sable du Sahara. C'est dommage quand même, parce qu'il y en a beaucoup.
Non, il y en a beaucoup, en effet. Parce que le sable du Sahara, il est roulé par le vent et donc il est trop fin. Et d'ailleurs, par exemple, à Dubaï, pendant des années, ils continuent à importer du sable d'Australie en bateau, même pour faire leurs îles, là, vous savez, les îles que les célébrités étaient censées acheter. Voilà.
C'est pas du tout absurde. C'est l'heure de vous imposer ma petite obsession. pensez donc de savoir c'est quoi la modernité pour vous, architecte anti-béton, en 2024. Vous aviez envie, il y a des années, bien avant d'enquêter, de construire une maison d'hôte en terre crue en Algérie. Vous avez renoncé parce qu'on vous a accusé, entre autres, de refuser aux gens de la palmeraie dans laquelle vous étiez la modernité. De ne pas faire du béton, à l'époque, c'était vu comme un truc de vous voulez qu'on reste dans notre époque. C'était vu comme un truc d'arriéré jusqu'à quand ?
De quoi la
terre crue. De pas faire du béton.
Bah, c'est encore considéré. En fait, ce qui est fou avec le béton, c'est que ça fait quand même, on va dire, deux siècles qu'on a bien remis au point la formule, et c'est encore aujourd'hui, pratiquement deux siècles plus tard, même si c'est vraiment pendant le 20e siècle que ça a fabriqué notre monde, c'est encore considéré moderne. C'est ça qui est complètement fou, quoi. C'est une matière qui a cette capacité de véhiculer tout un imaginaire de la modernité. Et qui est très difficile à déconstruire.
Alors, pendant votre enquête, pour apporter un peu d'espoir dans ce rouleau compresseur qui se met en place au fur et à mesure, vous rencontrez beaucoup de gens qui testent d'autres matériaux depuis des années. Il y a Werner Schmidt, par exemple, qui est un architecte suisse, qui travaille, lui, la paille, et qui vous dit, écoutez, il y a plutôt de l'espoir aujourd'hui. Il y a 20 ans, tout le monde me prenait pour un doudingue. Aujourd'hui, comment il est perçu, par exemple, ce Werner Schmidt, pour les jeunes gens modernes?
Il est perçu comme un pionnier. Ça qui est assez super, c'est que lui, en fait, dans les années 90, il avait une obsession, il voulait faire une maison isolée sans chauffage. Et donc, il cherchait le meilleur isolant. Et donc, il a tout essayé, même la laine de pierre, tout ça. Et puis, il a découvert la paille. Et il s'est dit, mais c'est fou, ça. Il y en a beaucoup en Europe, un peu moins en Suisse, parce que c'est surtout des montagnes, la Suisse. Et puis, il allait se former au Nouveau-Mexique. Et aux États-Unis, d'ailleurs, c'est là qu'on a inventé la construction en bottes de paille. C'est dans le Nebraska, vers 1860. Ils ont envoyé des pauvres colons dans un endroit où il n'y avait rien. Même pas de la pierre, même pas des rails de train pour leur amener quoi que ce soit. Et donc, ils ont commencé à faire pousser du blé. Et puis après, ils ont inventé une machine pour botteler. Et à partir de ça, ils se sont dit, mais on pourrait faire des maisons avec. Et donc, aujourd'hui, quand on construit en bottes de paille structurelles, on appelle ça la technique Nebraska, parce que ça a été inventé aux États-Unis.
L'eau vient de... Enfin, elle n'est pas tombée. Et ça tient, quoi. La paille, ça tient.
La botte de paille, c'est très compact. Et on peut construire jusqu'à deux étages. Et il y a des écoles qui ont été construites en France, mais pas que ça. Il y a par exemple à Rosny-sous-Bois, c'est vraiment le chef de file en France de la construction en paille. Et donc, on a construit deux écoles, dont une qui a été inaugurée l'année dernière, en botte de paille porteuse.
Alors c'est amusant de voir aussi Gilles Perraudin, qui est un pionnier de l'architecture bioclimatique, qu'on retrouve aussi dans la BD, vous expliquer que la modernité d'après lui, c'est le contraire de ce que vous faites dire à Le Corbusier au début. Alors Le Corbusier, il dit que le béton c'est la liberté parce qu'il y a une infinité de possibles à faire. Lui, Gilles Perraudin, il dit que la matière doit imposer la forme, en l'occurrence il s'agit de pierre quand il vous parle. On ne pourra plus faire des trucs rigolos alors, des maisons rondes par exemple, comme la maison de la radio?
On ne pourra plus faire des trucs rigolos. Si, on peut toujours faire des trucs. Déjà, on a quand même construit un patrimoine énorme en béton. Donc moi, mon idée, c'est pas la tabula rasa. Enfin, d'ailleurs, c'est pas mon idée, c'est l'idée de plein de gens. Tout ce qu'on a fait pendant notre siècle, il faut le garder. Il faut le faire durer le plus possible. Puis surtout, il faut pas le démolir.
Donc, parce que les déchets de béton, c'est pas mal.
Le déchet de béton, c'est pas mal aussi. Donc en fait, ce qu'on a déjà, il faut le faire. Puis après, le béton, on continue à l'utiliser. Parce que l'idée, c'est pas de... On va pas réussir à faire zéro béton. Mais ce qu'il faut, c'est l'utiliser le moins possible pour qu'il sait faire de mieux. Et le béton, ce qu'il fait de mieux, c'est la structure. Donc, et puis après, il faut remplir avec plein d'autres choses.
Et donc, on peut continuer à faire des formes rigolotes. C'est l'information importante que j'aimerais retenir.
Rassurez-vous si vous avez plus de maison en girafe.
Et alors, on peut avoir l'impression qu'aujourd'hui, pour faire moins de béton, on ne fait que ressusciter des techniques anciennes, traditionnelles. Où est-ce que vient se nicher la modernité là-dedans ?
Alors c'est vrai que le mot, en tout cas de modernité, je ne parle pas du concept pour la philosophie, mais vraiment pour l'architecture, c'est vraiment ce qui émerge des techniques nouvelles. Mmh. Et les techniques nouvelles, c'est les techniques qui sont héritées de la révolution industrielle, donc c'est l'acier, le verre, l'aluminium, le béton. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui est nouveau, c'est plutôt ce qui est renouveau, ce qui était déjà nouveau. Enfin, même pas ce qui est renouveau, c'est ce qui a toujours existé, mais qu'on reconsidère.
C'est comme la mode, en fait.
Exactement.
Finalement, les trucs, les crop tops et tout, c'était fini, puis ça revient, quoi.
Voilà.
Donc, avec un cycle un poil plus long.
Oui. Voilà, un cycle de 11 millénaires.
Voilà. Oui, mais c'est déjà bien. Voilà.
Mais donc ouais, il y a pas des trucs nouveaux. Enfin, quand on, par exemple, quand on fait de la paille, on n'invente pas un nouveau truc. Non, mais
bien sûr, bien sûr qu'il y a des nouvelles choses. Par exemple, je vous donne une idée. Un exemple. Par exemple, le chanvre. Pendant des années, le chanvre, on a surtout fait avec des cordes, des sacs, du tissu. Et le chanvre, on l'a pas tellement utilisé dans la construction. Ben là, aujourd'hui, on sait qu'on peut utiliser la paille de chanvre et on peut la mélanger à de la chaux. Et avec ça, on peut faire un super isolant, en plus perspirant, en plus qui a un très bon confort d'été. Et puis ça a été inventé dans les années 80. Donc il y a de l'innovation possible et de l'innovation en cours à partir de fibres qui existent depuis la nuit des temps.
Et alors, vous êtes enseignante au Smart Living Lab qui rassemble les étudiants de la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture de Fribourg et l'École Polytechnique de Lausanne. Ils nous préparent quoi, eux, pour demain ? Le Smart Living Lab.
Alors, le Smart Living Lab, c'est un lieu d'expérimentation qui a été créé il y a quelques années. Et il y en a un autre en France similaire qui s'appelle les Grands Ateliers de Villefontaine. Et c'est près de Lyon. Et en fait, c'est un endroit... Alors, à Villefontaine, c'est surtout pour l'expérimentation des écoles de Grenoble, de Lyon. C'est un lieu absolument génial où il y a un laboratoire qui s'appelle Amaco qui fait des formations toute l'année. Si vous avez envie, par exemple, vous cet été, vous pouvez faire une formation
Pour mes bambous.
Alors, bambous, je ne sais pas s'ils ont, mais à mon avis, d'avoir faire une formation tailleur de pierre avec,
oui,
avec
Marie, des si compagnons. Cet été, hop, voilà. Allez, hop.
Voilà. Et donc, au Smart Living Lab, c'est un lieu qui a été créé et deux écoles principalement peuvent l'utiliser. Et puis là, on fait de l'expérimentation à grande échelle, toutes sortes, également de l'expérimentation sur du béton. Et depuis quelques années, par exemple, moi, il m'a été donné la possibilité d'introduire de la terre crue, de la première année d'architecture avec tout un groupe d'enseignants, ou alors à la Haute École d'Architecture d'Ingénierie de Fribourg. Il m'a été donné la possibilité de proposer, par exemple, des workshops fibres, terre crue. On a même fait venir quelqu'un qui a enseigné aux étudiants comment tisser du saule. Donc, en fait, il y a un intérêt pour tout ça.
Il y a la révolution et donc en marche.
Oui.
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 Il y en a une qui culpabilise fort, oulala, fort, depuis une heure de sa toute nouvelle dalle en béton.
Oui, c'est vrai.
C'est l'heure de fraîcheur marine dans Jusqu'ici, tout va bien. Hier soir, je suis tombée sur un article du journal 20 minutes qui parlait d'une actu un peu plus chaude que Lagardère qui s'auto-vire. Non, eux, ils sont plus partis sur une actu édifiante qui s'intitulait « 1er mai, y aura-t-il toujours du muguet en 2050 ? Certains producteurs jettent l'éponge. » Et réussir à faire une phrase anxiogène avec le mot « muguet », j'avoue qu'ils sont forts quand même à 20 minutes. Hein. Alors j'ai d'autres idées d'articles s'ils veulent. Le bisou à votre enfant. Ou comment lui transmettre involontairement un virus mortel. Ou encore, le gâteau d'anniversaire. Et si vous vous brûliez le visage avec les bougies. Oh, c'est terrifiant. L'article de 20 minutes commence quand même avec une note positive en disant « Cette année, le muguet est de bonne qualité avec des clochettes en nombre. » Des clochettes, ah bah moi c'est vraiment la première question que je me pose sans cesse. Les clochettes seront-elles là en nombre cette année? Je te jure Marie, j'y pense à chaque fois que je vais me coucher, hein. Je me dis mais faites que cette année encore nous soyons bénis par les clochettes nombreuses. Si jamais Poutine nous balançait l'arme nucléaire sur la tronche, faites que les clochettes résistent aux ondes radioactives. Non mais l'article en vrai il est super intéressant. Il explique que c'est une culture de plus en plus exigeante qui nécessite 12 mois de travail pour être prêt à la bonne date. Voilà, le muguet c'est le Père Noël du mois de mai. Et alors faut l'accueillir à la... Faut l'accueillir, bien sûr, à la bonne date. Sinon, le muguet, il est pourri. Et avec le dérèglement climatique, ça complique tout. Cette année, il a fallu, par exemple, cueillir 4 jours plus tôt que prévu le muguet. Donc l'article dit, je cite, à tel point que certains chuchotent carrément l'idée de décaler la fête du travail. Bah voilà, bah faisons comme ça. Décalons le jour férié en fonction de la date que le muguet a choisi pour être cueilli. Bah oui, c'est ça. Puis tant qu'on y est, foutons la Saint-Valentin le 15 août, parce que c'est vrai qu'un resto en amoureux en terrasse, c'est quand même plus sympa. Alors en plus, autre problème, c'est qu'il n'y a plus de bras pour le cueillir. Donc les producteurs produisent, mais ils ne peuvent pas tout récolter. Et en même temps, je me dis que le contrat de travail, il ne doit pas être super alléchant. Ça vous dit de faire une formation de 6 mois pour devenir cueilleur de muguet afin d'être embauché pendant 8 heures dans une année? Ouais, bah, niveau sécurité de l'emploi, on est moyen. Tout ça pour qu'on fête le travail en plus, c'est hyper cruel. Non, du coup, ce n'est pas facile pour les producteurs de muguet qui d'ailleurs viennent à 90% de Loire-Atlantique. Et les 10% sont des concurrents sévères. Hein. Ce sont ces salauds de grands-parents hein, qui demandent à leurs petits-enfants de s'asseoir sur une chaise en plastique sur la bande d'arrêt d'urgence pour vendre du muguet enroulé dans du papier d'alu, le tout calé dans un joli vase de fond de bouteille cristalline découpé. Comment ils le justifient de faire prendre ces risques à leurs petits-enfants en vrai? Est-ce qu'ils se disent « Attends, le jeu en vaut la chandelle, parce qu'au bout, on parle quand même d'un chiffre d'affaires de 8,50
euros. » Qu'est-ce que c'est l'accent là?
Je sais pas, c'est ce qui est venu là, c'était un jeu improvisé. Concurrence déloyale en tout cas. Le souci principal d'après 20 minutes, c'est que le manque de personnel et les changements climatiques font qu'on n'est pas sûr qu'il restera du muguet en 2050. Donc je résume, en 2050, on fêtera le 1er mai à une
une autre date et on n'aura plus de muguet parce que c'est trop fragile et galère. Voilà, si ça se trouve, le muguet de 2050, ce sera du lierre ou du liseron. Parce que ça, croyez-en mon expérience, ça crève jamais, hein, même si le temps est pourri. Ou du bambou, tiens. Non, mais ça va devenir n'importe quoi le 1er mai, à tel point que si ça se trouve un jour, les plantes seront vendues par des adultes et que leurs revenus seront déclarés. Ah non, c'est triste, c'est triste. Alors je me suis dit, mais comment échapper à ce triste destin? Comment convaincre des gens de se lancer dans la production du muguet pour la sauver, la soutenir, œuvrer pour trouver des solutions contre le changement climatique? Comment trouver un seul argument poétique, magique, qui puisse toucher en plein cœur les producteurs de demain? Eh bien, le muguet, c'est un chiffre d'affaires annuel entre 20 et 30 millions d'euros. Voilà. Eh bien, en vous souhaitant à tous et à toutes une joyeuse réorientation professionnelle.
On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter en spectacle le 14 mai au théâtre de la Tour Eiffel où elle présentera le Pride Comedy Show et puis sur une bande d'arrêt d'urgence demain vers 14h30 avec des brins de muguet.
Un euro le brin.
Alia Benguena, on chahute ensemble depuis 17h08. On parle de la BD Béton, enquête en sable mouvant. C'est chez les Presses de la Cité. Vous l'avez écrite avec votre mari Claude Bechtold et Antoine Maréchal. Et on veut savoir ce que, d'après vous, il faut absolument laisser tomber.
C'est l'interview Laisse Béton.
Les panneaux solaires, on garde ou on laisse béton?
On garde, mais surtout, on essaie de consommer moins.
Les piscines, on garde ou on laisse béton?
Si elle est déjà construite, on garde et puis on en fait un réservoir à haute pluie.
Mettre la clim dans sa maison, on garde ou on laisse béton?
On laisse béton et on ventile naturellement.
L'isolation à la laine de verre, on garde ou on laisse béton?
On laisse total béton et on remplace par de la laine de verre.
De la laine de roche, surtout pas.
La laine de roche?
Surtout pas, on remplace par des laines de fibres. Donc la laine de bois, laine de chanvre,
la paille.
Laine de lin, de la paille en vrac, du chanvre.
Et bah c'était fini, j'allais dire la dernière, mais on me murmure, on me chuchurle qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup Alia Benguena, votre BD Béton, enquête en sable mouvant, on la conseille. Elle est publiée aux Presses de la Cité, vous l'avez écrite, je l'aurais dit, avec Claude Bechtold et Antoine Maréchal. Demain, on recevra l'humoriste Vérino pour qu'il nous fasse rire sur l'urgence climatique. C'était Jusqu'ici, tout va bien, on vous dit à demain.
C'était Jusqu'ici, tout va bien. Retrouvez tous les podcasts sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Tu me connais, mes faiblesses, mes dents, j'aime pas les avouer. Devant toi ou les autres, c'est mort, tu m'as vu pomper. Depuis ce jour béni, on s'est rencontrés. C'est de la l'enchanté, hein. Ce sentiment, tous les jours me manque. J'essaye de dire non. Mais ton bas, tes baisers me manquent. Ça va en s'empirant, pas en grandissant. Cherche pas les compliments. Mais une sauce, c'est pas une sauce sans piment. KTM m'appelle, dis-moi toi toujours à quoi même. KTM m'amène, j'suis peur, j'reste fidèle à moi-même. Jalouse, ce soir touche à fond. J'suis jalouse, j'en ai rien à foutre. J'veux toucher à tout. Je subis tout un tour de magie. Ceux qui te font la cour vont aussi subir. Ils vont finir à la vidéo. Vidéo, y'a des mouvements illégaux. Illégaux, ça mouille à la météo. Météo, des comportements illégaux. Illégaux, KTM, ma belle. Je m'entends toujours à quoi même. KTM. Peur, je reste fidèle à moi-même. Jalouse, ce soir touche à fond. Je suis jalouse, jalouse, j'en ai rien à foutre. Je veux toucher à tout, toucher à tout. Allez, nous, viens, on rentre chez nous. Toi et moi, c'est tout. Je suis jalouse, jalouse, touche à fond, touche à j'avoue, bébé, jalouse. Jalouse, j'en ai rien à foutre. Je doute, touché à tout. Jalouse, allez-vous. Jalouse,
après les infos, Grand Canal avec Eva Bester sur Inter.